Du 6 au 11 novembre, la grenouille se fait l'écho du Festival des cinémas d'Afrique du Pays d'Apt.
Allez, on y va!
Dans une rue d'un quartier populaire en plein centre-ville d'Alger, plus précisément au troisième étage d'un de ces immeubles qui donne l'illusion d'une rue étroite, se trouve le lit de Smaïn. Smaïn, animateur radio la nuit, se couche à l'heure où Alger s'éveille. Sektou, ou Ils se sont tus, c'est le court-métrage de Khaled Benaïssa qui a reçu le prix du court-métrage à Beyrouth et la mention spéciale au FESPACO 2009. Dirigeons-nous en plein centre-ville d'Alger, dans cette rue où, pour Smaïn, le sommeil est un rêve et le réveil un cauchemar.
Ce qui m'intéresse, moi, c'est pas cette rue-là, c'est les rues d'Alger. Et en tout cas, cette rue, de par son histoire, de par sa condition, est une cellule qui résume un peu l'histoire d'Algérie complète. Et faire ça dans un court-métrage, c'est une grande entreprise. Voilà, maintenant, l'ambiance de ce quartier, c'est très bruyant, c'est une architecture du 19e siècle qui m'intéresse énormément. La rue est presque une impasse, c'est comme un carrefour. C'est un fragment de la ville et de la société algérienne. Maintenant, l'ambiance, elle est très populaire, oui.
C'est aussi une partie de vous ?
Surtout. Si c'est un fragment de l'Algérie et un fragment de la société algérienne, moi, c'est pas un fragment, moi, c'est vraiment complet. Elle fait partie de moi entièrement et... On ne peut pas filmer toute l'Algérie dans l'espace et dans le temps. On doit choisir un fragment qui est le plus symbolique et qui raconte le maximum de notre histoire. Et je pense que mon quartier, mon vécu dans ce quartier, peut symboliser une grande partie, de mon histoire avec l'Algérie et avec Alger.
Né en 1978 à Annaba, en Algérie, Khaled Benaïssa a obtenu un diplôme d'état en architecture à Alger et suit un cursus de formation en France dans le cinéma. C'est lors du Festival du cinéma africain en Pays d'Apt qu'il présentera son film à des classes de collégiens et lycéens.
J'aimerais bien savoir d'abord ce que vous avez compris, quelles sont vos questions, par rapport à vos réactions, je vous dirai davantage. À vous la parole, donc.
En fait, c'était juste pour savoir si l'arrivée des policiers dans le film, est-ce que c'est encore son rêve ou pas? C'est dans son rêve ou c'est dans la réalité?
Voilà. Tu me fais énormément plaisir, hein, je te félicite. C'est une question en tout cas très essentielle à mon film. Et moi, je me suis entendu déjà dire dans des réunions très sérieuses, hein, où il y avait un enjeu financier et un enjeu artistique, que je n'avais pas envie de répondre à cette question dans mon film. Que si le spectateur peut se poser cette question-là, ce n'est pas grave.
En fait, c'est pour laisser recours à notre imagination.
Merci beaucoup.
Oui, mais c'est nul parce que si on laisse recours à notre imagination, on ne peut pas savoir vraiment la suite parce que après, s'il y a une autre suite... Et qu'on se dise des autres choses, après ça...
Je comprends pourquoi tu dis c'est nul. Ça peut être nul. Parce qu'un producteur m'a dit, Khaled, mais si on ne sait pas si c'est la réalité ou la vérité, à quoi ça sert de faire ce film? Mais moi, ce qui m'a intéressé, c'est pas de te dire que là, le personnage rêve, ou là, le personnage ne rêve plus. Ce qui m'intéresse de dire, c'est que voilà qu'est-ce qui pourrait se passer dans la tête d'une personne, et voilà la différence entre le rêve et la réalité. Je reviens souvent à la vie, souvent... Quand je suis dans une quotidienneté très réelle, ma pensée s'évade et ça se confond avec ce que je fais. Ça s'appelle la déconcentration. Quand tu es en train d'écouter, par exemple, en classe un prof, souvent, tu l'écoutes, tu es concentré, tu écoutes très bien ce qu'il dit et hop, tu vas, ça te rappelle quelque chose et à un moment donné, le prof va dire « Oh, oh, on se réveille !» Et là, tu reviens. C'est ce moment-là qui m'intéresse. Et c'est ce moment-là que moi, m'est très important.
Oui, mais à la fin, par exemple, quand il appelle la vieille personne. Oui. Qui est en face de lui. Mais en fait, on ne sait pas si c'est la réalité ou pas. En fait, il faut savoir placer la barrière de quand c'est vrai, quand c'est la réalité, quand c'est son rêve.
Ouais. C'est exactement ça. Ce qui m'intéresse, c'est que ça soit confondu. C'est que parfois, on vit des choses tellement difficiles et tellement violentes. Moi, personnellement, dans ce quartier-là, il y a eu beaucoup d'événements très, très violents pour moi en tant qu'adolescent dans ce quartier. J'ai vécu 15 ans dans ce quartier. Moi, j'habite au 4e étage. Ouais, en plus, quand il n'y a pas d'ascenseur, je te raconte pas. Donc c'est ça qui m'intéresse au fait, c'est basculer entre le rêve et la réalité. T'as très bien compris certaines choses et je t'en félicite. Écris mon frère, écris.
Celui qui est endormi, c'est pas un rêve qu'il fait. D'après ce que j'ai compris, c'est ce qui se passe dans sa rue en fait.
Non, c'est pas. Non, elle a rien compris. Toi, t'as compris quelque chose? Ou pas alors? Non, mais je voudrais répondre. C'est que la personne rêve et son rêve est conditionné par les bruits de sa rue. J'adore le. C'est le son qui dit qu'on a rien compris. Ouais. Mais c'est pas important. Hein.
Dans la fête, ils font quoi? Une fête ou...
Dans la ville, c'est pas une fête, non.
Ah oui, dans...
C'est comme une fête, mais c'est pas une fête. C'est un groupe de musique traditionnelle du sud, de la région de notre ami, de Psha, et qui traverse toute la ville pour recevoir de la monnaie. C'est une tradition. La tradition veut dire que c'est les gens qui passent dans la ville et qui délivrent des diables. C'est un peu l'image, la mythologie. Mais eux, c'est resté. C'est un groupe de gens qui font cette musique traditionnelle, qui traversent la ville. C'est des gens qui chantent le désert. Et moi, tout le monde leur jette de la fenêtre des pièces de monnaie. Et les enfants dansent avec eux et tout. Et moi, j'ai énormément fait ça dans mon enfance. Et moi, j'aime beaucoup ces gens-là qui ramènent une touche du désert dans la ville.
Comment il meurt le vieillard qui est à la fin?
Oui, ben, ça, c'est drôle. Toi, tu penses qu'il est mort?
Oui, parce qu'il l'appelle et il
répond pas. Il y en a d'autres qui pensent qu'il dort.
Il est sourd.
Ouais.
Pourquoi on a l'impression que à chaque film, on a l'impression que c'est pas fini, qu'il y a une suite?
Très bien. Ça, c'est une très bonne question. Je te félicite cette question. C'est les courts-métrages. Et souvent, les films, la fin du film, c'est pas la fin de l'histoire. C'est qu'on laisse toujours une part d'imagination. Il y a beaucoup de films, même longs, hein, d'une heure et demie. Et quand ça s'arrête, ils nous laissent des éléments pour imaginer la suite de l'histoire, de ce qui pourrait se passer au personnage en question. C'était des films qu'on n'a pas besoin d'arrêter comme ça en disant que le méchant, le bon a gagné et le méchant a perdu. Souvent, ça finit pas comme ça. Ça finit par une interrogation. Moi, en tout cas, c'est mes films préférés. Quand je vois un film, à la fin, j'aime bien quand quand je reste avec une question, qu'est-ce qui va se passer après ce film et qu'est-ce qu'il aurait gagné s'il avait fait autre ça ou ça. Et ça, ça ressemble plus à la vie. Parfois, quand on est en vacances et on est loin de tout ce qu'on vit, la fin des vacances, c'est pas la fin de ta vie. C'est que t'as fini un film qui est une semaine en vacances et tu reviens à ta vie quotidienne et... Tu vois, c'est cette sensation-là qui est intéressante. Et dans le court-métrage, c'est beaucoup plus souvent parce que c'est court. Merci beaucoup.
Alors dans votre rencontre avec les enfants, vous leur expliquez que parfois dans les courts-métrages, les réalisateurs imposaient ou plutôt plaçaient des petites choses qui n'avaient aucune symbolique pour le grand public, mais plutôt pour le réalisateur. Alors quelles sont-elles ?
Oui, parce que c'est un grand dilemme. C'est est-ce qu'on fait un film pour parler au maximum de gens, pour se parler à nous-mêmes ? Et pour il y a des choses dans des films qui répondent qu'à des choses du réalisateur, de très personnel. Et ça, c'est pas propre au court-métrage, c'est même dans le grand cinéma, dans les longs-métrages, dans le documentaire. Et moi, ce qui m'a inquiété le plus chez les enfants, c'est qu'ils étaient dans l'information. C'est est-ce que ce personnage dort ou il meurt ? Et dans certains films, dont le mien par exemple, je m'en fous de répondre à cette question. Si on perçoit ce personnage-là comme un personnage endormi, ça ne gâche rien. Et si on ressent ce personnage comme quelqu'un qui est mort, aussi ça dit des choses. Ben, si les deux situations racontent une histoire forte et ne gâchent pas la totalité du projet et de l'histoire, c'est plus intéressant. Et les enfants étaient là à vouloir, ils y tenaient à cette information. Est-ce qu'il est mort, est-ce qu'il est vivant ? Non. Ce qui est important, c'est ce qu'on perçoit, ce qu'on ressent. S'il y a des gens qui ont vu la scène des lits, pas comme je l'ai vu quand je l'ai écrit. Et moi, quand je l'ai écrit, je l'ai vu de cette manière-là. Quand je l'ai tourné, je l'ai vu autre chose. Et quand je l'ai rencontré avec le public, j'ai vu encore autre chose. Au début, c'était la rue qui dort. La rue qui se tait, qui ne réclame pas, la rue qui est passive. Ce que j'entends par la rue, c'est l'opinion publique. Et il y en a d'autres qui ont vu l'hôpital. Et il y en a d'autres qui ont vu une morgue. Tous ces symboles, tous ces... J'aime pas le mot message, mais tous ces répondants sont intéressants.
Alors cette rue où il y a des lits vides, alors c'est une rue aussi qui dort, et pourtant c'est une rue qui n'invite pas les habitants à y dormir.
Oui, c'est très bien votre formule. Dans le film, il y a ce grand dilemme entre le rêve et la réalité, entre dormir et se réveiller. D'ailleurs, l'émission du personnage, elle s'appelle « Rêve pour te réveiller ». Et le personnage est un animateur radio qui a une émission qui invite les auditeurs à parler de leurs rêves et à essayer de comprendre leurs rêves. Parce que je pense qu'une société où les gens ne rêvent plus, où les jeunes, plus exactement, n'ont plus de rêves, où le rêve de moins en moins est une société très fragilisée. Quand on parle du rêve américain, on sait très bien ce que ça veut dire. Et je pense que toute la société américaine a été construite sur ça, le rêve américain, le jeune de 20 ans qui mise tout pour aller à Hollywood, pour conquérir le monde, pour réussir à tout prix. Et dans d'autres sociétés, notamment du Sud, moi, c'est quoi le rêve ? Le rêve algérien, c'est quoi ? Moi, en tout cas, je rêve d'avoir ce rêve algérien. C'est peut-être conquérir déjà son propre pays et réussir à avoir une identité face au monde. Après les 10 ans noirs, quand je me retrouvais dans un groupe international, on me voyait comme quelqu'un qui vient d'une tuerie, qui vit dans un monde qui s'entretue. Ça craint. Quand on voit un Espagnol, on voit de la joie. Quand on voit l'Italie, on voit le savoir-vivre. Tu vois, c'est des identités universelles. Et moi, je suis à la recherche de ça. Quelle est notre identité universelle ? Quand tu dis algérien, tu dis un guerrier, tu dis un combattant, un révolutionnaire, un terroriste, c'est quoi ?
Alors ce personnage, animateur radio, vous le surnommez Grandes Oreilles. On dirait que vous aimez bien aussi les surnoms, puisqu'il y a aussi Lucky Luke et puis Chauve-Souris. Quelle est l'importance de ces personnages dans la compréhension de l'histoire de votre court-métrage ?
J'ai une grande sensibilité aux surnoms, dû à la recherche de cette identité. Souvent, dans un groupe, on surnomme les gens à qui on donne très vite les surnoms, c'est les gens qui ont plus de personnalité, qui sont le plus présents, qui sont le plus attractifs, j'allais dire, sociables. Et un surnom résume un nom ou un prénom, c'est une info. Le surnom, il y a plus que ça, il y a du vécu, il y a du ressenti. Quand tu donnes un surnom à quelqu'un, c'est résumer un peu toute l'idée, toute l'image qu'il te donne. Et c'est un peu ça dans les personnages. Ben, le chauve-souris, c'est un gardien de nuit de voiture qui dort dans les voitures la nuit. Donc on le surnomme chauve-souris, il dort pendant le jour. Quand la ville se réveille, lui aussi il va dormir. Et Lucky Luke, c'est le chef du quartier. Il se la joue Lucky Luke, mais il y a un petit côté péjoratif, un petit côté ironique. Moi, ce qui m'intéresse dans les surnoms, c'est résumer plus que l'identifier. C'est résumer la personnalité, c'est un peu de la fiction. c'est un peu ce qu'on pense de lui, c'est un peu ce qui lui nous rejette. Et ce rapport-là m'intéresse.
Alors est-ce que c'est votre parcours de comédien avant celui de réalisateur qui vous a valu d'être aussi attentif aux personnages du film ?
Oui, peut-être. Parce que j'étais comédien pendant longtemps et je pense que j'ai gagné beaucoup avec mon expérience de comédien par rapport à mon écriture, par rapport à comment réaliser un film, comment traiter ses personnages et comment traiter ses films. Mais vous savez que une des tares du film, qu'on peut en parler, peut-être c'est pas votre avis, c'est que les personnages sont pas très très développés, ils sont vus superficiellement. Vraiment sur la surface. Je ne suis pas parti en profondeur dans les personnages, je les ai vus à distance. D'ailleurs, ils sont filmés à distance. Et le personnage principal, c'est le quartier. C'est au fait, ce que j'ai vu le plus en profondeur, ce n'est pas les personnages, chacun dans son univers, chacun dans son identité, mais c'est le tout. C'est tous ces personnages en même temps qui forment le quartier, qui forment cet univers, qui m'intéresse le plus.
Alors, vous jouez beaucoup avec l'effet sonore. D'un coup, le son se coupe. Alors, on ne sait pas si c'est un problème de projection ou si c'est dans le film. Alors, en fait, c'est plutôt un parallèle entre l'ambiance que provoque le son dans un film et puis l'ambiance que provoque la sonorité dans un quartier.
Oui, j'ai joué avec la panne. C'est un grand risque. C'est un parti pris qui a été énormément discuté avec toute l'équipe, que ce soit le monteur, le producteur, mes associés, même les comédiens, parce que je fais participer tout le monde dans la réalisation du film. Il y a beaucoup d'idées qui sont venues de mon producteur, d'un comédien, qui sont dans le film, hein, qui sont réelles. Et c'est vrai que la coupure du son crée la panne, crée le chaos. Et c'est vraiment voulu. À cette séquence, on sort un peu du film, on dit « Oh, c'est quoi ?» Et dès qu'on dit c'est quoi, et on sort du film, on a une distance et on se prépare à autre chose. Comme si je vous réveille de cette... Il y a l'effet, tout cinéaste, je pense, aime quand le spectateur rentre dans son film, et il s'oublie, il reste dans son film et ça c'est bien. Et moi j'ai à ce moment-là du film, qui juste avant la fin, je voulais casser cette intimité. Parce que après, il y a une nouvelle donne dans le film, il y a une réalité qui va être donnée au spectateur et je voulais qu'il soit dans une autre ambiance psychologiquement.
Alors les policiers arrivent et c'est tout, c'est là qu'ils se sont tous tus.
Oui, souvent on a tendance à chercher le titre dans le film et le spectateur est très, très réconforté quand il trouve le titre, soit dans une réplique, soit dans une scène, soit dans un personnage. Mais moi, le titre, c'est tout le film. Ça peut avoir plusieurs sens. C'est pas seulement au moment où le flic arrive et tout le monde se tait. C'est la discussion entre le vieux et le personnage. Quand il lui dit, c'est pas le moment de dormir, c'est le moment de réfléchir. C'est quand le chauve-souris dit au vieux, on a beau surveiller, vous surveillerez toujours plus que nous. Il y a un échange de générations. Et c'est tout ça qui dit, ils se sont tus. On s'est tue, c'est la rue qui s'est tue. Par exemple, le titre, on peut le retrouver dans le plan des lits. Le silence peut avoir une autre forme, pas seulement contre le bruit, mais contre l'action aussi. La passivité, quoi. La passivité est un silence pour moi aussi.
Et alors, quelle est la symbolique de cette voiture noire à la fin ?
C'est le mal. C'est la tache noire de nos sociétés, de notre histoire. C'est le diable qui se faufile, qui s'intègrent dans ces sociétés-là, qui ont une joie de vivre, qui sont fragilisées certes, qui tuent pas mal de gens.
Vous avez représenté le mal comme une voiture noire, c'est pour pas trop prendre parti ?
Non, j'ai pris parti complètement. C'est une voiture piégée. C'est une bombe qui explose. Je comprends pas.
Vous avez pas voulu de donner plus de définition qu'une voiture noire dans ce que vous voyez qui serait le mal ?
Ben parce qu'on est toujours à la recherche réellement de qui a fourni ce mal. C'est trop facile de dire c'est X ou Y. En tout cas, l'enquête est à suivre. C'est pas à moi de faire l'enquête. Moi, je veux parler du mal maintenant. Qui fait ce mal-là, c'est un autre film.
Sectou ou Ils se sont tus, une émission réalisée par Capucine Caro.
Rendez-vous demain à 15h pour une autre chronique autour du Festival des cinémas d'Afrique du Pays d'Apt qui se tient jusqu'au 11 novembre.
Alors, il paraît que tu me cherches ?